France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le fabuleux destin de Pauline Viardot, Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode autour de la vie incroyable de la cantatrice et compositrice Pauline Viardot. La dernière fois, nous avons laissé Pauline le jour de son mariage avec Louis Viardot, le directeur du Théâtre Italien à Paris. Ce mariage a été plus ou moins arrangé par George Sand et justement, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de George Sand et de sa forte amitié avec Pauline. Au menu également une amourette entre Pauline et le fils de George, Maurice. On dansera aussi au son des cornemuses avec Frédéric Chopin et on partira en excursion dans la campagne berrichonne. Et en guest star dans le rôle de Pauline, vous entendrez la voix de la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. C'est le 18 avril 1840 que Pauline Garcia épouse Louis Viardot. Les jeunes mariés emménagent 12 rue Favart, au centre de la vie musicale parisienne, à deux pas des théâtres et du conservatoire. Mais à peine installés, direction l'Italie. Pauline et Louis s'embarquent pour un voyage de noces de 4 mois. Au programme de leur périple, Milan, Bologne, Florence, Rome, Naples et Venise. Souvenez-vous, le mariage entre Pauline et Louis Viardot est l'œuvre de l'écrivain George Sand. George adorait Pauline, et pour que son art puisse s'épanouir sans orage, elle était convaincue qu'il lui fallait quelqu'un de sécurisant à ses côtés. Et non un débauché comme Alfred de Musset. Pauline l'a échappé belle. Sa relation avec Louis Viardot sera des plus sereines, comme elle s'en rappelle.
Louis avait 21 ans de plus que moi. C'était un homme intelligent, cultivé. Il était doux et posé, tout l'intéressait, en particulier la peinture, la chasse et l'Espagne, ce qui n'était pas pour me déplaire. Physiquement, il avait beaucoup d'allure et dégageait quelque chose de stable et de serein. C'était un homme respectable, bon, bienveillant. En société, il était très réservé et parlait peu. Toute sa vie, Louis a été très amoureux de moi. Je n'ai jamais partagé ses sentiments, mais j'ai toujours éprouvé pour lui une grande tendresse. La vie est parfois injuste. Plus d'une fois, je m'en suis voulu. Cet homme m'aimait, et je ne pouvais le voir autrement que comme un ami. Mais mon affection était des plus sincères. L'amitié est essentielle dans un couple. Elle ne décline jamais. Après tout, c'est peut-être la plus belle des passions.
Retour en arrière. La rencontre entre Pauline Garcia et George Sand date environ de 1839. Pauline a 18 ans, George en a 35. Depuis un an, en grande fan de La Malibran, George rêve d'entendre sa sœur Pauline, cette petite prodige dont la voix met en émoi tout Paris. Mais pas de chance. Des Baléares à la campagne berrichonne, George Sand est souvent en voyage avec son nouvel amant, le pianiste Frédéric Chopin. Et résultat, elle manque les débuts de Pauline au théâtre de la Renaissance et au théâtre italien. Georges a tellement hâte de découvrir Pauline que ses attentes sont sans doute très hautes. Et quand elle la rencontre enfin, eh bien bingo, c'est le coup de foudre. George Sand éprouve pour Pauline un mélange d'affection maternelle et de passion. Elle écrit « Je crois bien que dans toute ma vie, Pauline sera la seule que je puisse et doive chérir et admirer, avec raison, avec certitude. Il me semble que j'aime Pauline du même amour sacré que j'ai pour mon fils et ma fille, et à cette tendresse indulgente, illimitée, Presque aveugle, je joins l'enthousiasme qu'inspire le génie. Dès février 1840, peu après leur rencontre, un événement va mettre Pauline Garcia, qui n'est pas encore mariée, dans l'embarras. Et George Sand ne va pas hésiter à la soutenir publiquement. Le théâtre italien où Pauline se produit, et dont Louis Viardot, son futur mari et, on le rappelle, directeur, est menacé. L'État vient de lui retirer sa subvention de 70 000 francs. La raison officielle ? Il faut privilégier l'opéra comique, qui défend un répertoire national et non étranger, comme le théâtre italien. Mais en coulisses, ce qui pose problème, c'est l'installation des Italiens à l'Odéon, dans un quartier soi-disant excentré, qui n'attire pas assez de public. Pour protester, George Sand publie un long article dans la revue des Deux Mondes et en profite au passage pour dresser un portrait élogieux de Pauline Garcia, dont la voix, écrit-elle, « part de l'âme et va à l'âme ». Elle ajoute « Pauline ne plaît pas seulement, on l'aime ». À vrai dire, George Sand se reconnaît probablement un peu en Pauline. Elles ont en commun l'intelligence, la passion artistique et même physiquement, elles se ressemblent. Aucune ne correspond au canon de beauté de leur époque. Pauline est souvent jugée laide par ses contemporains, avec sa bouche épaisse, ses yeux globuleux, son teint mat et son dos un peu voûté. Et de son côté, George a une allure assez masculine. Elle porte des pantalons et fume la pipe. Mon extérieur n'est ni beau ni aimable à première vue, constate-t-elle dans son autobiographie. Cette fulgurante amitié va conduire Pauline Viardot et George Sand à entretenir une riche correspondance, en particulier entre 1839 et 1849. Au départ, Pauline se montre plutôt timide dans ses lettres. Tout de même, c'est à George Sand qu'elle écrit, et George Sand, c'est une célébrité. Pauline commence donc ses lettres par des formules très respectueuses. « Chère Madame Sand, chère et bonne amie ». Mais l'amitié grandit. Et assez vite, les barrières tombent. Pauline se met à appeler Georges Ninoun ou Minoun. Et pour Georges, Pauline est sa fifille, sa chérie mignonne. Dans leurs lettres, les deux femmes abordent tout type de sujets. La musique et la littérature, bien sûr, le rôle de l'artiste, mais aussi des préoccupations de tous les jours. La question des domestiques, l'éducation des enfants, les incommodités des moyens de transport. Il leur arrive aussi de parler politique ou société. Georges est une républicaine convaincue, comme Louis Viardot d'ailleurs. Leur engagement vaudra à Pauline un certain nombre d'attaques, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Exaltée comme elle l'est, George Sand guette les lettres de Pauline avec impatience. Mais parfois, un peu paresseuse, cette dernière met du temps à répondre, et George s'en agace. Georges s'occupe de Pauline comme si elle était sa fille. En août 1840, elle l'accompagne à Cambrai. La cantatrice doit se produire lors de festivités locales. Le matin, Georges veille à se lever tôt pour avoir le temps d'aider Pauline à se préparer. Une fille, Georges Sand en a une pourtant. C'est Solange. Mais leurs rapports sont conflictuels. Pour Georges, sa fille est dominatrice, jalouse, égoïste et a toujours l'esprit de contradiction. Un jour, Georges a ces mots très durs envers Solange. « Si tu ressemblais à Pauline, je serais la plus heureuse des mères. » Même Pauline, qui est pourtant si douce et bienveillante, aurait elle aussi eu du mal à apprécier Solange. Elle se souvient qu'un jour, alors qu'elle recevait les Sandes dans son domaine de Courtavenel, l'enfant s'était montré cruel. Lors d'une promenade au jardin, Solange avait décapité ses belles fleurs à coups de cravache, des lys, des glaïeuls, des iris, des narcisses, toutes cassées.
Thank you.
Au grand désespoir de George Sand, Pauline passe sa vie en tournée à l'étranger et les Viardot viennent rarement la voir chez elle à Nohant. Ils n'ont souvent pas assez de temps pour entreprendre un tel voyage. Nohant n'est aujourd'hui pas si loin, mais à l'époque, c'est toute une expédition. En 1840, Paris et Orléans ne sont pas encore reliés en train. Il faut attendre 1843. Et même à partir de cette date, il faut encore compter 4 heures de train, une bonne journée en diligence jusqu'à Châteauroux, puis à nouveau quelques heures de route jusqu'à Nohant. Mais le trajet en vaut la peine. Le domaine de George Sand a de quoi faire rêver. Situé en plein cœur de la campagne berrichonne, la maison est entourée d'un vaste parc, avec un bois, un jardin, des vergers ou encore une roseraie. C'est ici que George Sand a grandi, et c'est ici qu'elle écrira la majorité de ses œuvres, comme La Mare au Diable ou Le Meunier d'Angibault. Apparemment, elle se mettait parfois au travail dès 3 heures, vêtue de sa robe de chambre et chaussée de ses petites babouches. À Nohant, on travaille, mais on s'amuse aussi. Les bavardages dans le salon en compagnie de Balzac, Liszt ou encore Delacroix s'éternisent parfois de 5 heures du soir à 5 heures du matin. Et on passe du bon temps à écouter Chopin au piano. Finalement, à force de persévérance, George Sand parvient à ses fins. En août 1841, les Viardot se laissent convaincre et font leur toute première halte à Nohant. Les voilà installés pour 2 semaines, bulle d'air entre une tournée en Angleterre et le prochain festival de Gloucester. Pauline a 20 ans et est enceinte de 5 mois. La tranquillité du Berry lui fait le plus grand bien.
Ninou n'a eu raison d'insister. Ce séjour à Nohant m'a revigorée. La quiétude de la campagne, la simplicité de la vie, le soleil sur les champs. Après les mois éreintants et pluvieux que nous avions passés à Londres, cela me faisait le plus grand bien. Par contre, je ne peux pas vraiment dire que ces vacances m'aient reposé. Comme toujours, j'étais bien incapable de rester en place. Les journées étaient si remplies. Au programme, de longues promenades dans la nature, des parties de billard et bien sûr d'interminables conversations sur l'art et la littérature. Éreintée, ma Ninoune n'était pas mécontente de retrouver son lit le moment venu. Vers la fin du séjour, nous avons eu la chance de participer à une fête villageoise devant l'église de Nohant. C'était formidable. J'ai dansé la bourrée au son des vielles et des cornemuses. Chopin aussi était fou de joie, très intéressé par le folklore berrichon, il y trouvait son compte.
Quelques mois plus tard, le 14 décembre 1841, Pauline Viardot met au monde une fille, Louise. Mais pas le temps de pouponner. Pour une jeune cantatrice, il est difficile de faire passer sa carrière au second plan. Pas d'inquiétude, George Sand est toujours là pour dépanner. Pauline sait qu'elle peut compter sur elle. L'été 1843, Pauline lui confie donc sa fille pour quelques mois. Elle doit assurer une série de concerts à Vienne, à Prague ou encore à Berlin. George Sand, qui prend un malin plaisir à jouer les grands-mères, s'occupe souvent de Louise. Et à Nohant, tout le monde s'amourache de cette adorable poupée d'un an et demi. Chopin et Delacroix, de passage à Nohant, sont complètement séduits. Même Pistolet, le chien de la maison, n'est pas non plus insensible. Comblé, Georges écrit à la jeune maman. Louise est gaie comme un pinson, fraîche comme une rose, babillarde comme une linotte et douce comme un mouton. Jamais je n'ai vu de mioche si bon et si intelligent. Vous êtes née coiffée, Louis et vous, mais j'ai bien envie de vous la voler quand vous viendrez pour que vous ne me la repreniez pas. Mais celle que Georges aime par-dessus tout, ce n'est pas Louise, c'est sa mère Pauline. À tel point qu'elle va en faire l'héroïne d'un roman, Consuelo. George Sand entreprend l'écriture de Consuelo en 1842. Ce long roman prend place dans l'Europe du XVIIIe siècle et raconte les aventures d'une jeune cantatrice bohémienne d'origine espagnole. Ses pérégrinations commencent à Venise, où elle est l'élève du vieux Nicolas Porpora. Les points communs entre Consuelo et Pauline sont nombreux, physiquement d'abord. L'héroïne de Sand est décrite comme laide, mais quand elle chante, tout s'éclaire en elle, son âme rayonne. En exprimant son amour avec simplicité et en y mêlant, comme toujours, cette dévotion espagnole pleine de tendresse humaine et de compromis ingénus, Consuelo était belle. Dès son enfance, Consuelo sillonne le monde, de Constantinople à Mexico, comme Pauline l'avait fait avec ses parents, lors de leur épopée américaine. Et comme Pauline, Consuelo est travailleuse, persévérante et parle 5 langues. Dans le roman de Sand, on retrouve aussi les rivales de Pauline, les divas Giulia Grisi et Rosine Stoltz, camouflées derrière les noms de Corilla ou Clorinda. Consuelo incarne la perfection de l'art. Georges Sand écrit. Elle sentait et elle comprenait jusqu'à la moindre intention de la musique qu'elle exprimait. Les séjours à Nohant permettent aussi à Pauline de faire plus ample connaissance avec l'amant de George Sand, le pianiste Frédéric Chopin. Chopin et Sand se sont rencontrés pendant l'hiver 1836, lors d'une soirée en compagnie de Franz Liszt à l'Hôtel de France, rue Lafitte, à Paris. Chopin avait alors 26 ans, George Sand 6 de plus. Leur histoire avait plutôt mal commencé. Après cette soirée, Chopin aurait confié à Liszt. « Elle est antipathique, cette Sand. Est-ce vraiment une femme? Je suis prêt à en douter. » Il reverra vite son jugement, et à l'été 1838, Frédéric Chopin et George Sand entament une liaison qui durera 10 ans. Chopin a un physique frêle et délicat. Il est de taille moyenne, élancé, il a les mains longues, les cheveux d'un blond cendré et les traits doux et fins. De santé fragile, il tousse beaucoup et son humeur est souvent triste et mélancolique. George Sand raconte : sensible un instant aux douceurs de l'affection et aux sourires de la destinée, il était froissé des jours, des semaines entières, par la maladresse d'un indifférent ou par les menues contrariétés de la vie réelle. Et, chose étrange, une véritable douleur ne le brisait pas autant qu'une petite. Comme à son habitude, George Sand ne peut s'empêcher de materner et s'improvise garde-malade. Elle appelle Chopin son petit Chip Chip ou encore Chopino. Elle fait capitonner les portes de sa chambre pour qu'il soit tranquille pour travailler. Elle va même jusqu'à s'installer dans la pièce voisine pour le veiller. Dès qu'il fait beau, elle l'emmène en balade dans la campagne. Lui monté sur une ânesse, elle à pied. Thank you. Pauline va devenir très amie avec Chopin et passer d'excellents moments en sa compagnie. Elle se souvient.
Le salon de Ninoun et de Chopin était des plus animés. On y croisait Delacroix, Liszt, Thalberg. Nous parlions littérature, musique, politique. C'était passionnant. C'est dans ces moments festifs que je me suis musicalement rapprochée de Chopin. Plus tard, nous avons essayé de programmer des concerts ensemble. Je dis bien « essayer », car l'affaire était compliquée. Quand il n'était pas malade, Chopin avait un trac épouvantable. Je ne sais combien de concerts nous avons dû annuler. Cela allait beaucoup mieux dans le petit cocon de Nohant, loin du public. Nous passions des heures à jouer du piano ou à chanter. Chopin m'a même transposé l'air de la Norma de Bellini pour ma tessiture. Nous nous entendions si bien que, d'après Ninoun, son « chip-chip » me réclamait quand je n'étais pas à Nohant. J'espérais qu'il me composerait un jour des mélodies, rien que pour moi. En vain, cela ne fait rien. Faute d'avoir eu ma mélodie, j'ai arrangé ses mazurkas pour la voix.
Ces joyeux moments entre Pauline Viardot et Frédéric Chopin ont été gravés par Maurice Sand, le fils aîné de Georges. Sur l'une de ces caricatures, on voit la cantatrice au piano face au compositeur qui pointe le clavier du doigt, sceptique. Maurice, qui aime dessiner, réalise aussi un très joli portrait à l'huile où Pauline apparaît assise, vêtue d'une délicate robe rose, tenant son chapeau à la main. Sur cette peinture, qui date sans doute de l'été 1844, Maurice l'a représentée avec beaucoup de grâce. Ce qui n'est pas étonnant, car comme Musset, comme Liszt et bien d'autres, lui aussi en est amoureux. Et justement, lors de cet été 1844, Maurice passe quelques jours dans la résidence de campagne des Viardot, à Courtavenel. Il se pourrait bien que lui et Pauline, qui ont alors 21 et 23 ans, aient vécu une petite histoire. Dans une lettre un peu mystérieuse adressée à Georges, Pauline écrit qu'elle aime son fils bien sérieusement et espère avoir assez de courage, sans doute, pour oublier cet amour impossible.
Thank you.
Les années passent et la relation entre Georges Sand et Frédéric Chopin se dégrade. En 1846 encore, en apparence, tout va bien. On se baigne, on joue aux charades, on lit, on compose, on se promène dans la campagne. Mais le cœur n'y est plus vraiment. Le pianiste est constamment malade et devient difficile à vivre. Et quand Chopin apporte son soutien à Solange, la fille mal aimée, qui se marie avec le sculpteur Auguste Clésinger, contre l'avis de Georges, c'est la goutte d'eau. Elle rompt immédiatement. Les Viardot sont désolés de cette triste conclusion. Pauline fait de son mieux pour convaincre Georges de revenir sur sa décision. En vain. Mais Georges aime encore Chopin, évidemment. Quand elle sait que Pauline et lui se trouvent à Londres au même moment, elle questionne son amie. L'a-t-elle revue ? A-t-elle des nouvelles ? Des nouvelles, Pauline en a. Ils ont même rejoué ensemble. Le 7 juillet 1848, ils se produisent dans le très chic salon de Lord Falmouth à James Square. Toute l'aristocratie anglaise est là. Pauline chante des mazurkas et des duos espagnols avec Antonia de Mendy, sa cousine du côté de sa mère. Chopin les accompagne au piano. Ensemble, lui et Pauline donnent aussi des airs de Beethoven et de Rossini. Et Chopin interprète quelques pièces pour piano seul. Ce sera leur dernier concert.
Thank you.
L'été suivant, Pauline retourne en Angleterre pour y créer le rôle de Fides dans l'opéra Le Prophète de Meyerbeer. Mais une terrible nouvelle l'attend à son retour en France, mi-octobre. Chopin est mort.
Cette mort est arrivée comme un coup de tonnerre. J'y étais préparée, mais au fond, j'espérais que Chopin vivrait encore plusieurs années. D'après Ninoun, il faisait peine à voir depuis un moment. Il ne sortait plus. Les crachements de sang et les quintes de toux l'affaiblissaient. On raconte que les derniers jours, les plus grandes dames de Paris envahissaient sa chambre, ainsi que les dessinateurs, soucieux de capturer ses derniers instants. Quelle indécence! Du fond de son lit, Chopin trouvait la force de consoler ses amis présents. Il a demandé à Gutmann et Franchomme de jouer pour lui, probablement sa sonate pour violoncelle et piano. Ses obsèques se sont déroulées à la Madeleine. Des centaines de calèches et de fiacres envahissaient la place. L'église était pleine. Pas moins de 3000 personnes assistaient à la cérémonie. Tout était grandiose. Comme pour le retour des cendres de Bonaparte, nous avons donné le requiem de Mozart. Je chantais dans le quatuor de soliste, aux côtés de Madame Castellan, Messieurs Dupont et Lablache. Rares sont ceux qui n'ont pas versé une larme.
Fin du troisième épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, une série de 8 épisodes proposée par Charlotte Landru-Chandès avec la voix de Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot. Prise de son, Claude Nior, Fabien Capel, Éric Boissé. Mixage, Benjamin Vignal. Réalisation, Lionel Quentin. Attaché de production, Nelly Portal. D'après les biographies de Patrick Barbier, Michel Friant, Gustave Dulon et Alexandre Zvigilski. Podcast et réécoute sur notre site francemusique.fr. Dans le prochain épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, faites vos bagages, nous ferons un tour d'Europe en compagnie des Viardot. Au programme, un concert nocturne à l'Alhambra de Grenade, un voyage périlleux en Russie et un coup de foudre, décidément, celui de l'écrivain Ivan Tourguenieff pour Pauline Viardot.
À réécouter sur francemusique.fr.